Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire de savoir. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Sarah Walker pour parler de la théorie de l'évolution. Comment tu vas, Sarah ?
Bonjour Aymeric, je vais très bien.
Regardez bien autour de vous, votre chat fait sa sieste, le moustique qui vous agace un soir d'été, ou même votre voisin dans le bus. À première vue, nous n'avons rien en commun, et pourtant, si on remontait le film de la vie à l'envers, on finirait tous par se retrouver à la même table, autour d'un ancêtre commun né il y a 4 milliards d'années. Au menu du jour, on vous a concocté toute une série d'explications pour mieux comprendre ce phénomène de l'évolution justement. Un premier reportage qui fera le tour de la question en détail, suivi d'une interview de Jean-Christophe Debisseau, professeur en biologie à l'ULB et à l'initiative d'une exposition intitulée « Évolution » dans laquelle il tente d'expliquer au public et aux plus jeunes les mécanismes de cette fameuse théorie. Nous aurons également l'occasion de revenir sur l'actualité de fêter les 100 ans d'un des plus grands documentaristes de la BBC, Sir David Attenborough. Mais avant de partir pour cette odyssée du vivant, nous allons d'abord revenir sur les mécanismes de la théorie de l'évolution en détail, comme je l'ai dit tantôt. Elle reste trop souvent méconnue du grand public, alors que pourtant elle constitue encore aujourd'hui l'un des fondements les plus solides de la biologie. Elle nous permet justement de comprendre d'où on vient. Mais sur quel principe repose-t-elle exactement ? Réponse avec Sarah Walker.
Pourquoi existons-nous ? Pourquoi certaines espèces ont disparu alors que d'autres se sont adaptées ? Comment un colibri peut-il voler alors qu'un poisson ne quittera jamais l'océan ? La réponse tient en un mot, l'évolution. L'un des piliers fondamentaux de la biologie. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble comment ça marche vraiment.
Histoire de savoir, vulgariser l'évolution scientifique.
Vous le savez, on entend souvent ce mot évolution un peu partout dans notre quotidien, mais on l'utilise de manière assez floue. En biologie, l'évolution, c'est la transformation du monde vivant au cours du temps. Ça se manifeste par des changements dans les organismes, dans leurs apparences, leurs comportements, leur physiologie, et ça, à travers les générations. Et ce processus, il a commencé il y a au moins 3,8 milliards d'années. Au départ, notre Terre était le terrain d'une vie très simple. Et depuis, trois grands groupes d'organismes ont lentement émergé au fil du temps. Les bactéries, les archées et les eucaryotes. Autrement dit, nous, les animaux, les plantes et les champignons. Et tout ça, on peut le représenter comme un immense arbre généalogique du vivant, ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique. Chaque branche, c'est une espèce, et toutes ces branches partent du même tronc. Mais alors comment une espèce peut-elle se transformer en une autre ? Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Eh bien, il y a quatre grands mécanismes à connaître, quatre piliers de l'évolution, et on va les explorer ensemble, un par un. Le premier mécanisme, la mutation. Vous savez comment une photocopie, si on la copie encore et encore, finit par se dégrader ? Eh bien, l'ADN, c'est un peu pareil. Quand une cellule se reproduit, elle copie son ADN. Et parfois, rarement, mais ça peut arriver, il y a une petite erreur de copie. Et ça, c'est une mutation. Sans mutation, il n'y aurait tout simplement pas de variabilité génétique, et donc pas d'évolution possible. C'est le point de départ de tout. Chez les bactéries, des organismes unicellulaires, la reproduction est simple. La cellule se divise en deux. Si une mutation apparaît, elle est directement transmise. Chez nous, une mutation ne se transmet que si elle touche les ovules ou les spermatozoïdes. Si alors une mutation apparaît dans une cellule de votre peau, elle reste chez vous et ne se transmet pas. Vous vous demandez peut-être si toutes les mutations se répandent. La réponse est non. La plupart des mutations importantes sont si néfastes que l'organisme ne survit pas assez longtemps pour se reproduire. Elles disparaissent avec lui. Mais parfois, une mutation est avantageuse. Par exemple, certaines populations humaines ont développé une mutation qui permet de digérer le lait à l'âge adulte, ce qu'on appelle la persistance de la lactase. Il y a environ 10 000 ans, avec le développement de l'élevage, pouvoir digérer le lait représentait une source de nourriture supplémentaire considérable. Surtout en période de 17. Les individus porteurs de cette mutation survivaient mieux, se reproduisaient davantage et transmettaient cette capacité à leurs enfants. Aujourd'hui, dans certaines populations d'Europe du Nord, plus de 90% des adultes peuvent digérer le lait. Tout ça à partir d'une seule erreur de copie dans l'ADN. Cette mutation s'est donc répandue. Et c'est exactement là qu'entre en jeu notre deuxième mécanisme. La dérive génétique. La dérive génétique, c'est quand les fréquences de certaines gènes dans une population changent, par accident, sans raison particulière, sans avantage ni désavantage, juste par le hasard. Pour illustrer ça, imaginez une petite île sur laquelle s'échouent 10 individus d'une espèce. Ces 10 individus ne représentent qu'une toute petite partie de la diversité génétique de leur population d'origine. Par pur hasard, certains gènes seront plus présents et d'autres auront disparu. Et cette petite population va évoluer différemment, pas parce que c'est mieux ou moins bien, mais juste parce que le hasard en a décidé ainsi. Et c'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. D'après le généticien Saville Wright, la dérive génétique est autant plus forte que la population est petite. Dans une grande population, le hasard se dilue. Dans une petite, il peut tout changer. Venons au troisième mécanisme, la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est sans doute le mécanisme dont vous avez déjà entendu parler. C'est le grand apport de Charles Darwin qu'il a exposé en 1859 dans son œuvre nommée « L'origine des espèces ». Le principe est simple. Dans une population, les individus varient. Certains sont un peu plus rapides, un peu plus résistants au froid, un peu mieux camouflés. Ceux qui ont un avantage survivent plus facilement, se reproduisent et transmettent leurs caractéristiques à leurs descendants. Progressivement, ces traits avantageux deviennent de plus en plus fréquents dans la population. Vous savez cette phrase qu'on entend souvent, « la survie du plus fort ». Eh bien, c'est une formule un peu trompeuse. Ce n'est pas forcément le plus fort qui survit, mais entre guillemets le plus adapté à son environnement. Et l'environnement change constamment. Ce qui était un avantage hier peut, par exemple, devenir moins utile demain. Le quatrième mécanisme est le flux génique. C'est peut-être le plus discret, mais il est essentiel pour comprendre comment les espèces restent connectées ou comment ils se séparent. Le flux génique, c'est le déplacement de gènes d'une population à une autre. Imaginez deux populations d'oiseaux vivant sur deux îles voisines. Si de temps en temps, certains individus migrent d'une île à l'autre et se reproduisent avec la population locale, ils apportent avec eux leur bagage génétique. Ce brassage maintient une certaine homogénéité entre les populations. Et quand ce flux s'interrompt, par exemple si une montagne ou un océan sépare deux populations, les deux groupes commencent à évoluer chacun de leur côté sans plus échanger de gènes. Et d'après le biologiste Ernst Mayr, sur des milliers de générations, elles peuvent devenir si différentes qu'elles ne se reconnaissent plus au point de ne plus pouvoir se reproduire ensemble. C'est comme ça que naissent de nouvelles espèces. Et ça, on appelle la spéciation. Vous savez, ce qui est fascinant avec l'évolution, c'est que ce n'est pas une force consciente. Il n'y a pas de projet, pas de but. C'est juste la combinaison de mutations aléatoires, de hasards, de pressions environnementales et d'échanges entre populations qui, sur des millions d'années, produit la beauté incroyable du monde vivant tel qu'on le connaît. Et bien maintenant, prenez une seconde et regardez autour de vous. Et là, vous voyez le résultat de 3,8 milliards d'années d'évolution. C'est pas mal, non ?
Merci Sarah pour cette passionnante leçon de biologie et d'histoire. J'espère que tout comme moi, vous avez pu en apprendre un peu plus. Au moins maintenant, vous aurez les armes pour faire le malin au prochain repas de famille. Mais en tout cas, ça m'aurait bien sauvé en secondaire. Avant de continuer et de rencontrer Jean-Christophe Debizot, professeur en biologie à l'ULB, qui est venu nous parler d'une exposition organisée au sein même de l'université, je vous propose d'écouter Pompéi de Bastille, sorti en 2013. Pompéi, ça raconte, c'est les derniers instants et l'après-catastrophe de deux victimes de l'éruption du Vésuve en l'an 79.
How am I gonna be an optimist about this? We were tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
On vous en parlait justement avant, depuis le 2 mars, le Centre de Culture Scientifique et le Musée de Zoologie de l'ULB vous proposent de découvrir une exposition immersive qui nous plonge au cœur des origines de la vie, intitulée « Évolution ». Entre spécimens naturalisés et modules interactifs, les visiteurs pourront même embarquer à bord d'une réplique du célèbre Beagle, le navire de Charles Darwin. Une aventure pédagogique pour toute la famille et surtout pour les passionnés de biologie. Et pour l'occasion, nous avons rencontré Jean-Christophe Debizot, professeur en biologie au sein de la faculté des sciences, responsable de la didactique de l'enseignement de la biologie et qui depuis 2012 justement dirige le musée de zoologie de l'ULB. Sarah, toi, tu l'as rencontré justement.
Donc je m'appelle Jean-Christophe Debizot et je suis professeur ici à l'Université libre de Bruxelles en faculté des sciences et au département de biologie des organismes.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette exposition consacrée à l'évolution ?
Alors, ça fait en fait assez longtemps que j'avais envie de faire cette exposition, mais en fait, la théorie de l'évolution, depuis sa formulation originale, disons, par Darwin et Wallace en 1859, est devenue vraiment la théorie centrale de la biologie. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre le vivant. Et force est de constater que cette théorie est encore assez mal comprise par le grand public, par les élèves du secondaire. Et donc pour aider les enseignants, c'est une expo qui est avant tout proposée pour les écoles, même si elle est évidemment aussi accessible au grand public. Mais donc pour aider les enseignants dans l'enseignement de ces matières, ça m'a semblé très intéressant de faire cette expo.
Qu'est-ce qui était l'objectif principal de cette exposition ?
C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'était d'aider à mieux comprendre les mécanismes de l'évolution, en fait. Parce que donc, l'expo n'est pas orientée sur la reconstitution de l'histoire de la vie sur la Terre. Il y a d'ailleurs une très belle galerie de l'évolution à l'Institut des sciences naturelles. Mais l'expo qu'on propose ici, c'est vraiment une expo sur les mécanismes. Mieux comprendre... Comment est-ce que les êtres vivants évoluent ?
Et pourquoi est-ce que pour vous, c'est important pour les jeunes de comprendre exactement ces mécanismes ? C'est quoi l'importance de comprendre ces enjeux, surtout dans notre monde contemporain maintenant ?
Oui, pour les jeunes et pour les moins jeunes d'ailleurs aussi. Mais je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit à la première question, la théorie de l'évolution étant maintenant centrale pour la biologie, la comprendre correctement, ça permet aussi de mieux comprendre quels sont les enjeux, par exemple, dans la conservation de la biodiversité, pourquoi c'est problématique quand des populations ne comptent plus qu'un nombre limité d'individus. Aussi aider le grand public et les élèves à comprendre les informations qu'on voit quand même de plus en plus souvent apparaître dans la presse. On voit par exemple de temps en temps des arbres phylogénétiques dans la presse. Et pouvoir comprendre correctement le message scientifique qui est dans un arbre phylogénétique, bah, ça demande un petit peu de compréhension.
Et l'exposition utilise pas mal d'arbres phylogénétiques, mais aussi des panneaux interactifs et des puzzles, parfois aussi scientifiques. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces formats pour expliquer l'évolution ?
Ben parce que, donc, d'abord, l'expo, elle est quand même assez longue, donc elle aborde beaucoup de points. Et il y a du texte, évidemment, sur les panneaux qui permettent de comprendre un peu mieux les mécanismes en question. Mais, justement, comme c'est assez élaboré, comme c'est assez long, il nous a paru intéressant d'avoir quand même un certain nombre d'interactifs avec le public qui aide à comprendre, mais qui permet aussi de ne pas être tout le temps limité à devoir lire du texte.
Ouais. Et vous avez juste parlé aussi de la biodiversité. Et en quoi l'évolution permet-elle de mieux comprendre des enjeux actuels, comme par exemple la biodiversité ou la disparition des espèces ?
Mais parce que justement, ces mécanismes, la disparition des espèces, le fait qu'il faut favoriser les populations en termes de nombre d'individus pour qu'elles puissent se maintenir sur le long terme. Toutes ces mesures que l'on essaye de prendre pour conserver donc justement la biodiversité ne s'expliquent en fait que par les mécanismes de l'évolution qui sont à la base de cette biodiversité. En fait, si on a aujourd'hui toutes ces espèces, que ce soit animales, végétales, microbiennes autour de nous, dans ce monde dans lequel nous vivons et auquel on appartient, eh bien, c'est le fruit de ce processus évolutif. Et donc, en comprendre les mécanismes, vous avez par exemple parlé tout à l'heure d'espèces, ben, le mécanisme qui permet dans l'évolution d'avoir deux espèces à partir d'une espèce ancestrale, voilà, par exemple, un mécanisme qui est important à avoir intégré parce que c'est lui qui explique comment se forment les différentes espèces.
Vous en parlez aussi, mais la vulgarisation scientifique, c'est en fait aussi ce que vous faites ici dans l'exposition. Pour vous, c'est quoi l'importance de vulgariser la science et aussi quels sont les enjeux en vulgarisant la science ?
Ben, ça rejoint un petit peu les autres questions dans un premier temps, c'est-à-dire que l'enjeu, je pense que c'est justement de permettre d'améliorer la compréhension de cette théorie et de ces mécanismes compliqués. Et je pense que les experts, que sont les biologistes, doivent, à mon sens, se mouiller dans ce processus de vulgarisation. Parce que ce n'est pas si simple, en fait, de faire de la vulgarisation, puisque, bien sûr, on essaye de simplifier un petit peu le message pour ne pas noyer les gens, mais aussi de rester dans une vérité scientifique, dans un savoir scientifique de qualité.
Vous avez peur que, parfois, les propos peuvent changer, par exemple, s'ils sont adaptés par des journalistes comme moi-même ou des gens qui, peut-être, mal interprète une certaine vulgarisation ou des médias qui en changent les propos ?
Oui, on est souvent un petit peu effrayé de lire parfois des articles qui ont été écrits par des journalistes qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas des scientifiques à la base. On comprend que ce soit difficile de faire de la bonne vulgarisation, en particulier pour des personnes qui n'ont pas eu de formation scientifique véritablement approfondie. Mais donc justement, oui, je crois que c'est important pour cette raison-là que les scientifiques participent à ce processus de vulgarisation.
Maintenant, on parle un tout petit peu de la science. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les principaux mécanismes de l'évolution que le public comprend souvent mal ?
Oui. Une notion, par exemple, qui est traitée dans l'expo et qui est souvent mal comprise, c'est la notion de hasard. Par exemple, dans certains discours, on entend que c'est pas possible que la complexité du vivant actuel ne soit que le fruit du hasard. Et effectivement, c'est pas possible. Mais donc, la théorie de l'évolution est une théorie dans laquelle, dans les mécanismes de l'évolution, il y a certains des mécanismes qui sont effectivement des mécanismes qu'on dit aléatoires en science, hein, donc au hasard. Mais il y a aussi des mécanismes, en particulier la sélection naturelle n'est pas un mécanisme aléatoire. Et donc, c'est la combinaison entre des mécanismes aléatoires et la sélection naturelle qui permet d'expliquer l'évolution de la complexité et aussi sur des temps évidemment très longs. Donc, aux dernières nouvelles, l'apparition de la vie sur la Terre, ce serait quelque part autour de 3,8-4 milliards d'années. Donc c'est quand même un temps extrêmement long. Et ce temps extrêmement long, il est nécessaire aussi pour comprendre que les mécanismes par exemple, de mutation, de sélection naturelle, de dérive génique, ont pu aboutir à cette évolution et à cette complexité.
Et en fait, est-ce qu'on peut observer encore aujourd'hui une certaine évolution ou est-ce que c'est seulement un phénomène du passé ?
Alors, par rapport à cette question-là, j'avais envie de vous retourner un peu la question en vous demandant qu'est-ce qui vous ferait penser que ça puisse être un phénomène du passé et qui ne serait plus actuel ?
Pour moi, c'est... En fait, nous, comme êtres humains, on évolue de toutes les façons. Je pense qu'on remarque aussi que, par exemple, les tailles des personnes changent depuis des années et des années. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que l'évolution, elle est beaucoup plus dans l'aspect, par exemple, technique. On évolue dans la manière qu'on pense, mais peut-être pas, je ne sais pas, je ne suis pas du tout scientifique, mais peut-être pas d'une manière de scientifique, entre guillemets, qu'il n'y a peut-être pas les espèces qui se renouvellent, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais c'est ce que je me demandais.
Non, alors évidemment, bien sûr, l'évolution continue. Hein, le vivant continue à se modifier de génération en génération. Mais ces modifications ne sont pas toujours perceptibles à l'échelle du regard humain. Si ce n'est quand même l'évolution des organismes qui ont une durée de vie et un temps de génération, disons, très court. Hein, on vient de passer par la crise de la Covid. Et donc, tout le monde a entendu parler des mutations du SARS-CoV-2. Ces micro-organismes-là, ils évoluent assez vite que pour qu'on puisse l'observer. Mais bien sûr, ça demande des techniques. Bien sûr, ça demande des techniques de laboratoire. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et donc, oui, l'évolution continue sans souci, et même l'évolution humaine. Bien sûr, ici, je parle de l'évolution biologique. Il y a aussi une évolution culturelle, mais ça, c'est effectivement un petit peu autre chose. Mais l'évolution biologique, y compris de l'espèce humaine, continue. Même si, en effet, notre médecine nous permet d'agir contre la sélection naturelle dans, par exemple, le traitement de certaines maladies ou de certaines maladies, notamment liées à des mutations génétiques, il n'empêche que nous ne contrôlons pas tout et que, clairement, l'homo sapiens continue aussi à évoluer sur le plan biologique.
On en parle beaucoup du phénomène de la lactase, c'est ça ? Est-ce que ça, c'est aussi un aspect assez fondamental de l'évolution de l'être humain qui s'est adapté à pouvoir digérer du lait ?
Oui, c'est un exemple qui est souvent cité parce qu'en effet, c'est un exemple qui a été bien étudié et donc on comprend assez bien comment a évolué cette adaptation qui permet à certaines populations de bien digérer le lait alors que d'autres populations ne le digèrent pas bien du tout. Mais par exemple, si on pense aussi au sida, par exemple, on a pu observer que certains individus, certains humains, résistent naturellement au virus. Et ça s'explique aussi par des différences au niveau des récepteurs cellulaires qui fait que le virus n'arrive pas, en fait, à entrer dans les cellules. Et donc ces différences, ces variations entre individus permettent de comprendre que cette évolution continue. Je repensais aussi de nouveau au SARS-CoV-2 parce qu'on a vu aussi que pendant la crise du SARS-CoV-2, il y avait des individus qui résistaient beaucoup mieux que d'autres. Et bien ça, c'est typiquement un exemple qui montre que l'évolution par sélection continue actuellement.
Et pour vous, en fait, si vous projetez au futur, quelle va être vraiment l'évolution notable des êtres humains? Est-ce que ça va être vraiment genre l'adaptation quand ça vient à des virus qui arrivent, ou c'est comment est-ce que vous pensez que l'être humain va s'adapter de plus en plus ou s'évoluer dans les prochaines années?
Alors, il faut comprendre que l'évolution est un processus qui n'est pas prévisible sur le long terme, notamment parce qu'il y a toute une série de phénomènes aléatoires qui interviennent dans le processus évolutif. Et donc, ceux-là, on ne peut évidemment pas les contrôler. Donc, on ne peut pas faire de modèle précis sur comment exactement l'être humain, ou n'importe quelle autre espèce d'ailleurs, évoluera d'ici quelques siècles ou quelques milliers d'années. Par contre, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'effectivement, les processus, les mécanismes que j'ai cités tout à l'heure sont toujours en action. Et donc, il n'y a aucune raison, effectivement, que ça ne se poursuive pas.
Et vous sentez, ce que j'en suis certaine, mais le changement climatique, est-ce qu'il joue aussi beaucoup dans ces aspects?
Le changement climatique fait en sorte que l'environnement dans lequel évolue le vivant se modifie aussi à une vitesse qui semble être nettement plus rapide que ce qui a pu se passer dans le passé, puisqu'il faut quand même rappeler que dans l'histoire du vivant, bien avant que l'homme n'existe, il y a eu des extinctions massives, mais les bouleversements climatiques actuels sont très très rapides, et donc justement la sélection naturelle, qui est ce fameux mécanisme qui n'est pas aléatoire et qui justement dépend de l'environnement, eh bien si cet environnement change fortement, les pressions de sélection vont être différentes, et donc ça peut avoir effectivement des conséquences importantes.
Surtout aussi pour certaines espèces d'animaux, j'imagine, non, il y a quelques-uns qui ne pourront plus survivre de la manière qu'ils survivent maintenant, ou qui devront s'adapter probablement dans bien changer de population, je ne sais pas, j'imagine.
Oui, tout à fait, d'animaux, de végétaux et même de micro-organismes. Il ne faut pas oublier que les micro-organismes, ce n'est pas que des micro-organismes qui causent des soucis de santé à l'homme. La majorité des micro-organismes ont un rôle essentiel dans les sols, par exemple, et donc dans le maintien des cycles naturels de la matière. Donc voilà, ces changements climatiques, en effet, risque d'avoir quand même des effets assez importants sur les populations vivantes, quelles que soient ces espèces.
Mmh. Revenons maintenant à l'exposition. Est-ce qu'il y a une partie de l'exposition qui vous tient particulièrement à cœur et que vous dites, ça c'est en fait l'aspect le plus important pour les jeunes ou pour les écoles qui arrivent à le voir?
Je ne dirais pas qu'il y a une partie qui me tient plus à cœur qu'une autre, parce qu'on a vraiment essayé de proposer des tas d'aspects de l'évolution du vivant qui sont intéressantes. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une expo quand même assez longue. Et donc, quand, par exemple, une classe vient et pour une heure seulement, par exemple, eh bien, on a effectivement des panneaux prioritaires qui sont ceux qui